Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Charles Magnin.
Et c'est parti à 6h30 tous ensemble pour Apolline Matin. On commence avec la météo. Estelle Gas, bon bah c'est simple, c'est le classico de la météo, hein. Soleil dans le sud, nuages au nord.
Absolument, hein, Charles, des nuages sur toute la moitié nord avec des averses de Lille à Strasbourg, un ciel qui sera un peu plus nuageux également avec quelques rayons de soleil de La Rochelle au Jura et puis sur le reste du pays. Un très joli soleil, moins 3 à 10 degrés ce matin et puis cet après-midi 10 à Strasbourg et jusqu'à 23 degrés à Perpignan.
Votre rendez-vous sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr.
Il est 6h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC pour toute l'info, toute l'actu en direct. C'est votre journal présenté par Solène Leroux. Bonjour Solène.
Bonjour Charles, bonjour à tous. L'OM renoue avec la victoire et pas n'importe laquelle. Marseille s'est qualifié hier pour les demi-finales de la Ligue Europa. Aucun dégât majeur d'après l'Iran suite à la riposte lancée il y a quelques heures par Israël. On y revient dans ce journal depuis Tel Aviv. Et une marche blanche aujourd'hui à Grande-Synthe dans le Nord, 3 jours après la mort de Philippe, violemment agressé. On en sait plus sur le mobile de ses attaquants.
Au bout du suspense, l'Olympique de Marseille est en demi-finale de la Ligue Europa.
Luis Enrique qui s'élance, qui frappe et qui marque.
Et la victoire pour l'OM. Et ce n'était pourtant pas gagné. Marseille qui était en ballotage défavorable après le match aller au Portugal. L'OM a pris sa revanche sur le Benfica à Lisbonne après une séance de tirs au but impeccable. Florent Germain, une qualification inespérée dans une saison très compliquée.
Oui, un match fou au cœur d'une saison pas comme les autres. L'OM est en demi-finale de Coupe d'Europe et personne n'imaginait une telle performance tellement tout aura été compliqué depuis l'été dernier. Une élimination au tour préliminaire de la Ligue des Champions, 3 entraîneurs différents, des réunions de crise avec les supporters. L'OM 9e de Ligue 1, frappé par des blessures en pagaille, a au moins gardé le caractère pour s'accrocher en Ligue Europa grâce à un Vélodrome qui n'a jamais lâché son équipe et avec un Jean-Louis Gasset qui a su ramener le calme et quelques bonnes idées tactiques dans la maison olympienne. Marseille se met à croire à un miracle puisqu'une victoire finale en Ligue Europa offre aussi une qualification directe pour la Ligue des Champions. Ce rêve passe par une demi-finale début mai contre l'Atalanta Bergame. Pas forcément de quoi faire peur aux Marseillais qui reviennent de très très loin cette saison.
Et notez aussi la défaite de Lille face à Aston Villa hier soir. Défaite au tir au but aussi qui prive les Lillois du carré final de la 4e Coupe d'Europe.
On en vient à l'info de la nuit, la riposte d'Israël contre l'Iran.
Près d'une semaine après des attaques sans précédent de Téhéran, 3 fortes explosions ont été rapportées tôt ce matin. Aucun dégât majeur n'est à déplorer pour l'heure d'après l'Iran. Les vols commerciaux ont été suspendus dans plusieurs aéroports du pays, mais pas à Tel Aviv où vous vous trouvez, Igor Saïri. Que sait-on de cette riposte ?
Écoutez, c'est la télévision iranienne vers 14h30 qui a rapporté plusieurs explosions dans la province d'Ispahan, près d'une base militaire, province qui abrite également plusieurs sites nucléaires. Le système de défense iranien a été immédiatement enclenché et les autorités iraniennes rapportent qu'il s'agirait de drones. Des drones ont été abattus, mais ils ne rapportent pas des tirs de missiles pour le moment. L'espace aérien iranien a également été fermé dans plusieurs aéroports, notamment celui de Téhéran. Du côté israélien, il n'y a aucun commentaire qui pour l'instant n'a été fait. En tout cas, en Israël, pour l'instant, ça ne change rien puisque des vols commerciaux continuent d'arriver ici à Tel Aviv et il n'y a pas eu d'alerte ici dans la ville de Tel Aviv. En revanche, il y en a encore eu dans le nord du pays il y a quelques minutes à peine, mais comme les jours précédents, j'ai envie de dire.
Igor Saïri, envoyé spécial à Tel Aviv pour RMC.
Le temps du recueillement à Grande-Synthe aujourd'hui dans le Nord.
Avec une marche blanche en l'hommage de Philippe, 23 ans, battu à mort il y a 3 jours. Le scénario d'un guet-apens se précise. Les suspects ont reconnu les faits, toujours placés en garde à vue. Julie Brault du service police-justice de RMC, ces 2 mineurs de 14 et 15 ans assurent avoir agressé la victime après lui avoir tendu un piège.
Oui, c'est sans aucun regret que les deux adolescents ont détaillé l'origine de cette bagarre meurtrière. Face aux enquêteurs, ils ont expliqué être les créateurs d'un faux profil virtuel, celui d'une adolescente de 14 ans créée sur un chat en ligne nommé Coco. Leur but, monter des guet-apens et s'en prendre à ceux qui tenteraient de rencontrer cette fausse mineure. Un stratagème qui aurait mené à l'agression de Philippe lundi dernier. Le suspect de 14 ans assure notamment l'avoir d'abord aspergé de gaz lacrymogène avant de le rouer de coups de pied, des coups qui ont continué de pleuvoir, y compris lorsque le jeune homme était inconscient, allongé sur le bitume. Désormais, les deux adolescents, déjà connus des services de police, devraient être présentés à un juge d'instruction dans la journée, en vue de leur mise en examen.
La question de la sécurité sanitaire relancée en France avec la mise en vente de Biogarant qui pourrait bien passer sous pavillon étranger. Le géant français du médicament, filière du laboratoire Servier, est en vente. Parmi les candidats, deux entreprises indiennes, et ce alors que l'État souhaite relocaliser son industrie de la santé. Pierre Bourgès, pourquoi le laboratoire Servier veut se séparer de Biogarant ?
Eh bien parce que produire des médicaments génériques en France, ce n'est plus rentable. La faute à des taxes de plus en plus lourdes et des tarifs fixés par les autorités sanitaires trop faibles d'après un économiste de la santé. Résultat, chez Biogarant, plus de 10% des médicaments produits étaient vendus à perte. Autre argument, produire en France n'est plus aussi compétitif qu'avant. Prenons l'exemple de l'Inde. Le pays produit des médicaments de même qualité qu'en France pour 4 fois moins cher. C'est d'ailleurs la crainte des syndicats. Avec un rachat, la production de médicaments pourrait être délocalisé, entraînant des suppressions de postes, mais aussi des risques de pénurie encore plus importants. Le gouvernement se dit être très vigilant et se réserve le droit d'activer une procédure permettant de contrôler les investissements étrangers dans l'entreprise.
Mais le gouvernement a-t-il véritablement les moyens d'empêcher cette vente de Biogarant, d'empêcher le leader du médicament générique de passer sous pavillon indien ? La réponse du ministre de l'Industrie, ce sera tout à l'heure en direct sur RMC. Roland Lescure sera mon invité à 7h40. Et puis on termine avec un mot des courses. Solène, aujourd'hui, c'est sur l'hippodrome de Vincennes.
À suivre à 20h15 sur RMC Découverte, le favori de la Dream Team RMC, c'est le 5, Isabella Ferme. Le 12, Icône d'Avenir et l'Outsider. Le 5 et le 12.
C'est noté, c'était le journal de Solène Leroux. On se retrouve à 7h30 pour un prochain journal. À tout à l'heure, Solène, mais tout de suite à 6h37. Priorité au direct avec Jonathan, qui a composé le 32-16. Salut Jonathan.
Bonjour tout le monde.
Jonathan, où êtes-vous et d'où venez-vous ? Je vous laisse raconter.
Alors, on est parti hier avec une bande d'amis direction Marseille. On a pris un bus à Toulouse. On est parti à 7h et on va faire une journée de 24h. Direction Marseille, on était au Vélodrome.
Incroyable.
Vous y avez laissé votre voix.
Ouais, ça, oui, ça s'entend. Mais Jonathan, vous êtes sur le chemin du retour là, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, ouais. On est à 3/4 de la maison.
Oh là là, mais vous avez roulé toute la nuit. Mais racontez-nous le match.
Oui.
Racontez-nous le match, Jonathan.
Le match en lui-même était magnifique. Comme d'habitude, Marseille se transcende en Coupe d'Europe. C'est pas la même équipe. Ouais. Il y a deux équipes à Marseille. Une équipe Coupe d'Europe et une équipe en championnat.
Ah, c'est fou, hein. Dès qu'il y a l'Europe qui est en jeu, le Vélodrome et les joueurs se transcendent. Jonathan, on y croit là ? Ça va aller au bout ?
Je vous ai déjà appelé après Shakhtar. Ouais. Là, pour moi, on continue. Je l'avais dit après Villarreal. Là, on doit aller au bout. On va faire une belle épopée et on va aller au bout.
Et en même temps, Jonathan, comme le PSG va remporter la Ligue des Champions, on peut déjà imaginer l'OM et le PSG en Super Coupe d'Europe, là.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
On fait comme ça à la rentrée, la Super Coupe d'Europe ou PSG. Et Jonathan, vous êtes avec les copains, là ?
Ouais, avec les potes, ouais.
Ils ont encore un peu de voix, là ? Un petit aller l'OM tous ensemble, là ?
Ouais. Allez, je suis éclaté. Allez, tous les... Je me suis perdu trois voix, là.
On entend les petites voix. Bon, prudence quand même sur le chemin du retour, les gars. Et merci d'être passé par le 32-16, évidemment, pour nous faire vivre. Et bah, vous voyez, plus de 7 heures après le coup de sifflet final, après la qualif de l'OM, l'ambiance est encore là sur RMC ce matin grâce à Jonathan. Merci d'être passé par le 32-16. Rentrez bien avec les copains du Vélodrome et évidemment supporters marseillais. Vous l'entendez, vous venez quand vous voulez fêter cette qualif historique de l'OM hier soir en demi-finale de la Ligue Europa. Il est 6h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, c'est à vous de nous dire, est-ce que le comportement des élèves doit être un critère pour obtenir ou non leur diplôme, leur brevet, leur CAP, leur bac et même les poursuivre sur Parcoursup ? C'est l'annonce hier de Gabriel Attal. Le Premier ministre veut le retour du calme dans les établissements et mettre fin à l'impunité des élèves qui ont un mauvais comportement. Est-ce que vous êtes favorable à cette idée des sanctions qui durent dans le temps, qui poursuivent les élèves dans leur dossier ? Vous venez témoigner dans un instant au 32-16. On en débat tous ensemble. C'est à vous de nous dire.
RMC Police Justice.
Oui, chaque matin, l'histoire du jour repérée, racontée par le service police-justice d'RMC. On retrouve Guillaume Biais. Bonjour Guillaume.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Ce matin, Guillaume, vous nous parlez de cet incroyable vol d'or au Canada pour lequel 6 suspects viennent d'être arrêtés.
Oui, de l'aveu même du chef de la police régionale, cette affaire pourrait à elle seule être une série Netflix. Il y a pile un an, 17 avril 2023, sur l'aéroport de Toronto, des malfaiteurs réussissent un vol phénoménal. 400 kilos d'or pur et 1 700 000 euros en cash. Tout ça en quelques minutes, sans armes ni violence. Ce jour-là, c'est une cargaison de 6600 lingots d'or et de billets de banque qui arrive en provenance de Zurich et qui est stockée dans un entrepôt d'Air Canada. 42 minutes plus tard, le chauffeur d'un camion se présente à la zone de fret avec un faux bordereau, la copie falsifiée d'un document qui avait été utilisé la veille à l'époque pour récupérer des fruits de mer. Bref, ça a suffi pour que l'or et l'argent soient tout simplement chargés dans son poids lourd. Alors pour réussir un tel coup, il a évidemment fallu des complicités internes. Deux employés d'Air Canada viennent d'être arrêtés. Le chauffeur du camion lui aussi a été interpellé. Un bijoutier également, 6 suspects au total. 3 autres sont toujours recherchés, tout comme le butin qui n'a pas été retrouvé. Les enquêteurs pensent que les lingots d'or ont été fondus et écoulés notamment sous forme de bracelets, d'où les soupçons sur le bijoutier. La revente de cet or et l'argent en espèces aurait servi à rembourser d'énormes dettes liées au trafic de drogue ou encore à acheter des armes. Le chauffeur du poids lourd transportait 65 pistolets automatiques quand il a été arrêté.
Dans moins de 60 secondes sur RMC,
à vous de nous dire dans Apolline Matin. Vous écoutez la Minute Autoproduction Gamme Vert. Potager, semis, bouturage, plantes fleuries, rempotage, comment choisir le terreau le plus adapté? Rendez-vous en magasin pour demander conseil à nos experts. Et jusqu'à samedi, pour l'achat de 2 sacs identiques de terreau, le 3e est offert. Gamme Vert, l'autoproduction et l'avenir. En partenariat avec Fertiligène, Eclose, Invivo, nous on sème. Conditions et magasins participants sur gamevert.fr.
Bon allez, c'est décidé, j'exige une passate à mon patron.
Mais tu sais que t'es indépendant, hein, Michel?
Non, fini d'attendre, là, terminé. Hein.
Du coup, c'est toi, le patron, Michel?
Bah, il va m'entendre, tiens.
Ah bah, il t'entend bien, à mon avis.
Pendant les instants pro Volkswagen du 17 au 20 avril, la nouvelle Passat est à partir de 539 € par mois sans apport. Alors roulez surclassé. LLD 37 mois et 45 000 km. Offre réservée aux professionnels, valable sur une sélection de véhicules du 1er au 30 avril dans la limite des stocks disponibles et acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h43, bon réveil à tous sur RMC.
À vous de nous dire.
Lorsqu'on gêne les cours, lorsqu'on défie l'autorité, lorsqu'on dégrade, qu'on menace, voire que l'on agresse, cela ne doit jamais rester sans conséquences. Et cela ne peut pas rester sans conséquences s'agissant des examens et des bulletins scolaires.
C'était hier, en déplacement à Viry-Châtillon, le Premier ministre Gabriel Attal qui veut davantage sanctionner les élèves perturbateurs, des mentions de leur comportement qui pourraient ensuite les pénaliser au moment d'obtenir leur brevet, leur CAP ou bien leur bac. Un commentaire qui pourra être aussi apposé sur leur dossier Parcoursup, mais qui pourrait aussi s'effacer. Hein. On peut ensuite effacer cette mention en cas d'activité d'intérêt général et de très bon comportement. Alors, est-ce que c'est la solution, une des solutions en tout cas, pour retrouver le calme dans les établissements, ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez que c'est loin d'être suffisant? On va écouter vos témoignages, évidemment, au 32-16. On est tous ensemble autour de la table avec Sébastien Krebs, Estelle Gassella, Caroline Philippe nous a rejoint dans le rôle de Nicolas Poincaré. Salut Caroline.
Bonjour.
Victor Joannin dans le costume de Manu Le Chypre.
Bonjour.
Pour l'économie. Bref, on est tous ensemble avec Loïc, qui a composé le 32-16 depuis les Bouches-du-Rhône. Salut Loïc.
Et bonjour, comment allez-vous?
Ah bah nous ça va très bien. Bah alors Loïc, Bouches-du-Rhône, je suis obligé d'abord de commencer par une petite question sur votre soirée.
Bah écoutez, ma soirée, moi j'ai 3 enfants, je suis pas fan de foot, je suis fan de rugby, donc je vais aller au Vélodrome. Je vais aller au Vélodrome samedi, mais pour voir Toulon-Toulouse. Donc rien à voir avec l'OM d'hier. Bon, c'est bien qu'ils aient gagné, mais honnêtement... ça me passe au-dessus. C'est pas grave.
Ok, vous avez le droit. C'est une mauvaise pioche. Je suis tombé sur le seul Marseillais pas euphorique ce matin avec Loïc. En revanche, vous avez commencé comme ça, Loïc. J'ai 3 enfants et c'est donc au père de famille que je m'adresse ce matin. Quand vous entendez Gabriel Attal dire, il faut que les sanctions, poursuivent les élèves, que ce soit dans leur dossier, que ça les pénalise aussi sur leur parcours scolaire. La question du comportement, est-ce que c'est une bonne méthode pour vous?
Ben je pense pas. Après bon, ok, qu'ils sanctionnent s'ils veulent, mais après honnêtement, pensez-vous vraiment que les élèves qui mettent le bazar et qui sont très violents à l'école ou quoi, ils vont aller en Parcoursup? Enfin, il faut être réaliste. Genre de choses-là, ce genre de sanctions, il y en a quand même très peu qui vont en Parcoursup. Non, mais faut dire ce qui est. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire que
Loïc,
ça.
Loïc, il y a aussi la question évident. Du brevet, du ça peut être un CAP, un bac pro,
bon,
etc.
Aujourd'hui, vous trouverez quand même du boulot si vous n'avez pas votre brevet, si un BEP il l'aura sans trop de problèmes non plus. Enfin, voilà, c'est faut être honnête là-dessus. C'est Je pense que c'est des petites mesurettes qui sont OK, qui auront peut-être leur importance sur quelques enfants, mais sur la plupart, ils s'en moquent totalement.
C'est un éventail de mesures, mais aujourd'hui, voilà. Un élève qui passe en conseil de discipline, imaginons qu'il ait fait quelque chose de très grave, qu'il soit par exemple exclu pendant plusieurs jours, bah ensuite, ça passe, quoi. La mention, elle est enlevée au bout de quelques années de son dossier, ça ne le pénalise pas ensuite dans ses notes, dans son dossier scolaire.
Ça va être sur son dossier, il n'y a pas de souci. Après, de toute façon, il n'ira pas en Parcoursup, donc ça ne sert pas à grand-chose. Il faut trouver d'autres mesures, d'autres choses qui pourraient leur faire un peu plus de mal, leur faire plus réfléchir, notamment le travail d'intérêt général. Oui, je trouve que ça, ce serait une bonne chose.
Alors, Gabriel Attal en parle aussi. Il dit ça permettrait, pour ceux justement qui ont cette mauvaise mention, de l'effacer. Mais pour ça, il faut s'impliquer, un travail d'intérêt général, par exemple, ou avoir un très bon comportement. On peut aussi se racheter, c'est aussi ça l'éducation.
Oui, non, bien sûr, mais voilà, comme ça, il répare un petit peu les murs des écoles. On sait aujourd'hui que les écoles, il y en a beaucoup qui sont un peu limites. Mmh. Donc, de remettre un petit coup de peinture, de remettre un peu de placo, ça ne ferait pas de mal, ça leur ferait réfléchir.
Bougez pas, Loïc, parce que j'aimerais qu'on accueille un autre père de famille, c'est Christophe qui nous appelle depuis la Moselle cette fois. Bonjour, Christophe.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Salut Christophe, vous entendez ce que dit Loïc, c'est loin d'être suffisant comme idée de marquer le comportement des élèves dans leur dossier scolaire, de les pénaliser ensuite pour l'obtention de leur diplôme dans leur dossier Parcoursup. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Christophe?
Alors, moi, que ce soit noté dans leur dossier, c'est très bien. Que ça puisse être supprimé si le gamin s'arrange et que tout va mieux, c'est très bien aussi. Par contre, c'est un peu léger quand même. Parce que j'estime, comme la personne qui est intervenue juste avant, Loïc, qu'un gamin qui fout le cirque sans arrêt, je ne pense pas que les études l'intéressent, qu'il perde 2 points sur son brevet, je ne pense pas que ça le choque non plus. De bonnes sanctions, oui, genre intérêts généraux, mais pas intérêts généraux à enlever des mauvaises herbes dans des fleurs. Non, une pelle, une pioche au bord de la route avec 3 militaires autour. Un truc sérieux avec l'autorité.
J'entends Christophe, mais quand on a 12-13 ans, c'est un peu rude.
Bah justement, si on veut les marquer, c'est à l'âge-là. C'est pas à 17 ans qu'on va les marquer avec deux gars qui ont de l'autorité. À 12-13 ans, oui. Mmh. Là, ça choque.
Et Gabriel Attal 17, met aussi en avant la question de l'internat. Est-ce que ça peut être ça aussi la solution pour vous, pour des élèves que l'école n'arrive plus à tenir, que les parents n'arrivent plus à tenir en dehors de l'école? Est-ce que ça peut être ça, parfois, les sortir d'une situation difficile dans leur quartier, à la maison, à l'école, de les éloigner de tout ça et de les placer en internat? Ça aussi, Christophe, ça peut vous séduire comme solution?
Alors, l'internat, oui. Après, si c'est pour les mélanger avec des bons gamins, je vois pas l'intérêt parce qu'ils vont recommencer exactement la même chose. Par contre, des internats encadrés, là, oui, avec quelque chose de sérieux, avec des classes plus serrées, moins de gosses, et vraiment de l'autorité derrière, des horaires pour aller au lit, pour se lever, pour les recadrer, quoi. Parce que c'est pour les mélanger avec des jeunes normaux, on va dire entre guillemets, je vois pas l'intérêt. C'est les gamins qui vont encore
reproduire le même schéma. J'entends Christophe, en tout cas, que vous voulez plus de fermeté, plus d'autorité comme Loïc. Vous trouvez que c'est un peu gadget, un peu anecdotique, cette idée de marquer le comportement des élèves dans leur dossier, y compris de les pénaliser sur l'obtention de leur diplôme. C'est pas une menace qui les fera changer de comportement dès le plus jeune âge. Merci Loïc et Christophe d'être venus en témoigner en tant que père de famille, tous les deux levés de bonheur. Vous continuez vous aussi à réagir ce matin, évidemment. Ça se passe au 32-16. Est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que ça ne va pas assez loin pour vous, toutes ces mesures annoncées hier par Gabriel Attal, notamment pour rétablir l'autorité dans les écoles, dans les collèges, dans les établissements scolaires? Vous le savez, le 32-16 est ouvert pour tous vos témoignages en direct sur RMC. Il est 7h-10.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans un instant, c'est Racontez-nous avec Caroline Philippe.
En Italie, Charles, les anti-IVG vont pouvoir désormais aller dans des cliniques pour dissuader des femmes sur le point d'avorter.
Et puis ensuite, on n'a pas osé vous en parler, ce sera avec Sébastien Krebs.
Sujet sensible, l'hygiène des Français. On a les chiffres ce matin, qui ne se lave pas tous les jours, qui oublie de se brosser les dents et de se laver les mains en sortant des toilettes?
On va balancer autour de la table dans un instant, c'est sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
6h53, bon réveil à tous sur RMC.
Racontez-nous.
Avec Caroline Philippe, ce matin, on part en Italie, où désormais les militants anti-IVG pourront peut-être bientôt aller à la rencontre des femmes qui veulent avorter directement dans les cliniques.
Oui, pour les dissuader d'aller au bout de leur démarche, pour culpabiliser ces femmes sur le point d'avorter, les associations ou les militants anti-IVG italiens pourraient désormais pénétrer dans des centres médicaux, des cliniques. En Italie, c'est là que sont délivrés les certificats médicaux nécessaires pour pouvoir pratiquer ensuite une IVG. Les députés italiens ont donné leur feu vert. Le texte doit encore passer par le Sénat. Cette mesure du gouvernement Meloni a déclenché la colère de quasi la totalité de l'opposition et de nombreuses associations. Un député du Parti démocrate parle d'une situation, je cite, très grave, qui représente une gifle pour les femmes, leurs droits et leur autodétermination. Le vice-premier ministre italien a voulu rassurer tout le monde. Ce texte n'a pas vocation à supprimer le droit à l'avortement. Simplement, il ne faut pas, selon lui, criminaliser ceux qui sont contre.
C'est surtout un nouveau signe, Caroline, que depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni tente de limiter l'avortement.
Oui, tout ça sous couvert de vouloir relancer la natalité faiblissante en Italie, car Giorgia Meloni ne cesse d'affirmer qu'elle ne veut pas revenir sur la loi 194 qui dépénalise l'avortement depuis 1978 en Italie. Sauf que, par exemple, dans la région de Marche, dirigée par des élus de son parti d'extrême droite, l'accès à la pilule abortive est plus restreint que dans le reste du pays. Le délai de recours à l'IVG reste bloqué à 7 semaines, alors qu'une réglementation nationale impose pourtant de le passer à 9 semaines. Le nombre d'avortements ne cesse de chuter en Italie depuis quelques années et de plus en plus de gynécologues refusent désormais de pratiquer l'IVG. Cela représenterait plus de 60% d'entre eux en 2021.
Merci Caroline, racontez-nous, à retrouver quand vous voulez aussi en podcast évidemment sur l'appli RMC. 6h55, Seb.
RMC, Apolline Matin.
On n'a pas osé vous en parler.
Mais Sébastien Krebs ose nous dire que l'hygiène des Français laisse parfois un peu à désirer.
Alors oui, on va essayer de vérifier ce qui est parfois une idée reçue, que les Français sont parfois un peu cracra. Il y a une étude qui a pris l'initiative de nous comparer aux Américains. Alors, on va voir qui sont les plus propres. D'abord, qui ne se lave pas tous les jours? Alors, c'est quasiment quand même un Français sur 5, 19%.
Eh ben, on est 5 autour de cette table.
L'Inde,
c'est pas lavé ce matin.
Aux États-Unis,
c'est pire. Et j'ai une idée sur la pomme. Mais on balance pas.
On balance pas. Aux États-Unis, c'est encore pire. 30% des Américains ne se lavent pas quotidiennement. Brossage des dents. Là, les Français sont plutôt bons élèves. Nous ne sommes que 4% à ne pas nous laver les dents tous les jours. Et aux États-Unis, c'est presque un Américain sur 10 qui laisse la brosse à dents de côté certains jours. Par contre, aux États-Unis, on se lave plus souvent les mains qu'en France. C'est vrai qu'ils sont un peu plus, 96% à se laver les mains en sortant des toilettes. En France, c'est un peu moins. 81% avant de passer à table. En France, là aussi, c'est un peu moins. Ils se lavent même, ils sont même les trois quarts à se laver les mains après s'être mouchés, les Américains. C'est pas du tout le cas des Français.
Ouais, on n'a pas forcément ce réflexe. Ouais. Je l'avoue.
Et en plus, on se rend compte que les habitudes se perdent. C'est-à-dire que 12% des Français disent qu'ils se lavent les mains moins souvent qu'à l'époque du Covid. On avait pris des bonnes habitudes.
Ah oui, on a perdu certains bons réflexes.
On va peut-être essayer de trancher sur la question sensible des sous-vêtements. Là, il faut différencier les hommes et les femmes. Est-ce qu'on change les sous-vêtements tous les jours?
Ah oui.
Alors les Françaises.
Oui, quelle question, Sébastien.
Vous allez voir.
Vous posiez la question, Sébastien. Bah, on vous confirme, c'est oui, il faut. Oui, Seb.
Les Françaises, 91%. Ça va. Les Américaines sont quand même 10% de moins. Chez les hommes, attention, là c'est pareil des deux côtés de l'Atlantique. Vous avez quand même un gros quart des Français, des hommes français et américains qui avouent ne pas forcément mettre un caleçon propre tous les matins. Et alors on voit que ça a des conséquences très concrètes dans la vie personnelle, dans la vie de couple notamment. Avez-vous déjà quitté quelqu'un à cause de son manque d'hygiène?
Non.
C'est arrivé à plus d'un quart des Français. 28% disent avoir déjà quitter leur partenaire parce qu'il était un peu trop craqué.
J'ai envie de vous dire, appelez-nous pour témoigner, mais non. Si vous êtes dans ce cas-là, changez de caleçon avant de nous appeler. C'était On n'a pas osé avec Sébastien. Il est 6h57, vous êtes bien sur RMC. Évidemment, toute l'info, toute l'actu en direct ce matin. On va se retrouver dans un instant avec la météo et puis votre journal de 7h à la une. L'info de la nuit, c'est la riposte israélienne. Plusieurs explosions entendues près des sites nucléaires en Iran. Les toutes dernières infos dans un instant.